Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons commencer aujourd'hui par une très belle musique pour orchestre symphonique de Claude Debussy, Nocturne au pluriel. Alors Nocturne, puisque c'est avec un S, c'est un triptyque, une œuvre en trois parties distinctes, Nuages, Fêtes et Sirènes. Et voici ce que nous dit Debussy à propos de Nocturne et plus particulièrement de Nuages. Le titre de Nocturne veut prendre un sens plus général et surtout plus décoratif. Il s'agit de tout ce que ce mot contient d'impression et de lumière spéciale. Nuage, c'est donc l'extrait que nous allons entendre, c'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages finissant dans une agonie grise. Voilà les propos que tenait le maître sur son œuvre. Écoutons la version du Philharmonique de Berlin dirigée par Claudio Abbado. Magnifique nuage du crépuscule, le premier volet du triptyque pour orchestre symphonique appelé Nocturne au pluriel de Claude Debussy. L'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Claudio Abbado. Alors ce n'est pas un hasard si Debussy a baptisé cette pièce Nuage, parce que c'était un compositeur inspiré par tout ce qui l'entourait, et surtout par les éléments naturels. L'eau, les arbres, les feuilles, la neige, tout ce qui évoquait pour lui de la musique. Et notamment le vent. Alors pour illustrer le vent, voici Ce qu'a vu le vent d'ouest, un prélude pour piano seul, extrait du premier livre des préludes. Il y a deux livres comprenant chacun 12 préludes, ça fait donc 24 en tout, et celui-ci est interprété par Samson François. Ce qu'a vu le vent d'ouest, prélude de Claude Debussy pour piano seul, interprété par le pianiste français Samson François. Alors on a entendu deux œuvres de Debussy depuis le début de l'émission, une pour orchestre et l'autre pour piano seul à l'instant. Que se passe-t-il quand il décide de mêler l'orchestre avec le piano? Alors normalement on appelle ça un concerto, mais là on obtient la fantaisie pour piano et orchestre en trois volets. Debussy n'a jamais été satisfait de cette pièce, qu'il a retravaillée à plusieurs reprises au cours de sa vie, et il paraîtrait même qu'il a volé le matériel d'orchestre destiné à la création de cette pièce afin d'en empêcher l'exécution lors de la première. Alors ça, c'est bien du Debussy tout craché aux grands mots, les grands remèdes. Enfin bon, il a quand même envoyé un mot d'excuse, paraît-il. Tout de suite donc, le premier mouvement andanté, suivi d'un allegro de cette fantaisie pour piano et orchestre de Claude Debussy, l'Orchestre National de l'ORTF, Jean Martinon et Aldo Ciccolini, pianiste italien au piano. Fantaisie pour piano et orchestre de Claude Debussy, le premier mouvement Andante et Allegro, allant et joyeux. L'orchestre national de l'ORTF, appelé maintenant l'Orchestre national de France, dirigé par Jean Martinon et l'immense pianiste italien Aldo Ciccolini, aussi à l'aise tout seul qu'avec des camarades musiciens. Alors même si cela reste un orchestre avec piano, ce n'est pas un concerto, car on est un peu au croisement de la symphonie et du concerto. Et cette forme un peu libre a été utilisée à maintes reprises, notamment une cinquantaine d'années plus tard, par le compositeur russe Sergei Prokofiev, qui avait composé un concerto pour violoncelle, mais après avoir essuyé un accueil plutôt mauvais du public, l'a retouché pour en faire une symphonie concertante. Justement, sa seule et unique pour violoncelle et orchestre. Écoutons le premier mouvement en Dante, allant, par Janos Starker au violoncelle, le Philharmonia Orchestra de Londres, dirigé par Walter Suskind. Le premier mouvement de la symphonie concertante pour violoncelle et orchestre de Serge Prokofiev, Janos Starker au violoncelle, le Philharmonia Orchestra de Londres, et non pas l'Orchestre Philharmonique de Londres, ce sont deux formations différentes dirigées par Walter Suskind. L'ambiance est un peu sombre, même si c'est le reflet d'un monde féerique, on est en 1950. Écoutons maintenant par les mêmes interprètes quelque chose de plus léger, nonchalant même, puisque c'est l'indication donnée par Darius Milhaud pour le premier mouvement de son premier concerto pour violoncelle, composé en 1934. Vous écoutez l'heure classique sur Radio Rythme Bleu, c'était l'étonnant premier mouvement nonchalant, telle est l'indication d'interprétation donnée par Darius Milhaud à son premier concerto pour violoncelle, interprété ici par Janos Starker, le Philharmonia Orchestra de Londres, à ne pas confondre avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé ici par Walter Suskind. Janos Starker, que nous avons déjà entendu lors d'émissions précédentes et dont la justesse de ses interprétations a toujours été beaucoup commentée, jalousée même parfois. Il restera toute sa vie nostalgique de sa Hongrie natale et restera pour toujours comme un interprète spécial de Kodály, compositeur hongrois justement, et de sa sonate pour violoncelle seule. Nous allons écouter le dernier mouvement, Allegro molto vivace, très vif, de cette sonate qui comporte en vérité un thème avec des variations. Janos Starker racontera plus tard qu'après avoir joué la sonate au compositeur de fort belle manière, celui-ci lui a dit « c'est très bien, mais ne fait pas trop de différence de tempi entre les variations dans le dernier mouvement ». Et c'est seulement ce jour-là qu'il a su que c'était un thème avec des variations. Troisième mouvement de la sonate pour violoncelle seule de Zoltán Kodály par Janos Starker au violoncelle. Une œuvre qui rappelle les danses très rythmées, parfois endiablées, des paysans de sa Hongrie natale. C'était le troisième mouvement, Allegro molto vivace, très vif, de la sonate pour violoncelle seule de Zoltán Kodály, interprétée par János Starker. L'interprète de référence de cette sonate, on pourrait dire, puisque c'est le premier à l'avoir enregistrée vers 1950, enregistrement récompensé par un grand prix du disque. Et pour la petite anecdote, l'enregistrement a été fait dans une cuisine à Paris, comme quoi même les choses les plus simples fonctionnent ta merveille. Après avoir vécu à Paris, donc après cet enregistrement, quasiment quelques mois après, János Starker est parti vivre aux États-Unis, où il a fait la connaissance de Györgyi Szebok, qui était hongrois lui aussi. Ils sont restés très copains jusqu'à la mort de Szebok en 1999. Et tous les deux ont enseigné à l'université d'Indiana aux États-Unis. Ils se sont donc produits ensemble à de très nombreuses reprises, quasiment chaque semaine, peut-être même chaque jour, à certaines périodes de leur vie. Une amitié, une collaboration très intense, très belle, même très riche. Pour terminer, écoutons toujours János Starker et Györgyi Szebok, son grand ami, nous interpréter les deux derniers mouvements de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, un largo et un final allegro. Elle n'est quasiment jamais jouée, très peu enregistrée, c'est la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, interprétée ici avec beaucoup de style et de liberté par Janos Starker et Gueorgui Chebok. Et c'est avec les deux derniers mouvements que nous venons d'entendre que nous clôturons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Thierry, la réalisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans l'heure classique à la même heure. Bon week-end à tous.